Chers amis auditeurs, bonsoir. Donc, ce soir, dans le Libre Journal des Artisans, qui est exceptionnellement enregistré, donc vous pourrez nous faire parvenir vos messages que nous lirons à l'émission suivante, nous accueillons Pascal Payen-Appenzeller, qui est par ailleurs patron d'émission à radio, sur Radio Courtoisie et expert stratigraphe du patrimoine.
C'est vrai, très difficile à prononcer.
C'est très difficile à
prononcer. Mais on les voit, les strates, on les voit, on comprend.
Voilà.
Pourquoi.
Alors,
d'ailleurs, à mon âge, j'ai pas mal de strates.
Et délégué général du geste d'or. Alors, la première question, qu'est-ce qu'un expert stratigraphe du patrimoine?
En réalité, le jour où... un de mes amis architectes des bâtiments de France, puisque j'étais au service technique du service départemental de l'architecture et du patrimoine, qui s'appelle le SDAP, qu'on appelle bâtiment de France par convention. Et ce jour-là, il m'a demandé de porter ce titre, c'est-à-dire qu'effectivement, il avait reconnu que j'étais un expert dans les couches successives qui constituent un bâtiment.
D'accord.
Et qu'au fond, sans avoir fait... à proprement parler de géologie, j'étais cet archéologue du bâtiment qui, lorsqu'il voit n'importe quelle structure, les apparences, d'abord regarde le matériau et puis ensuite fait sonner le matériau, enfin, et puis découvre peu à peu, avec ou sans carottage, c'est-à-dire avec ou sans percement du mur, de quoi est fait la structure porteuse. Enfin, voilà, il avait découvert que j'étais ça et que je pouvais être nommé expert stratigraphe du patrimoine. Ça veut dire que d'une part, il faut être expert, d'autre part, il faut s'intéresser aux strates, enfin, il faut s'intéresser au patrimoine. Et par définition, le patrimoine, ce sont des strates. Vous êtes le fils de votre père, le petit-fils de votre grand-père, l'arrière-petit-fils, et ainsi de suite. Et de toutes les manières, orphelin ou pas, nous descendons de... Autrement dit, toute la Terre est une immense stratigraphie à explorer.
Et ça, c'est un plaisir pour les auditeurs de Radio Courtoisie, parce que mettre en valeur les restaurations antérieures doit plaire.
Ah, alors je ne sais pas dans quel sens vous prenez le mot restauration, mais je ne suis pas Charles X ici, ni son frère Louis XVIII. La France n'a jamais été aussi heureuse, d'ailleurs, entre parenthèses, que sous Charles X. Mais quand la France est heureuse, elle ne s'en rend pas compte. Et ensuite, elle croit être malheureuse. Mais bon, ça, si, est une autre chose. La restauration, oui, ça, la restauration pour le patrimoine, c'est quelque chose de récent. On n'aurait jamais parlé de restauration, finalement, à la Renaissance. Vous savez. Les grands représentants de la Renaissance parlent de l'État français, François Ier et les Valois. Ils ont aimé beaucoup l'Antiquité romaine, à telle enseigne aujourd'hui que les Kugel, dont j'ai eu l'occasion d'être conseiller, je sais que la précédente émission, vous l'avez consacrée à Alexandra Latour et à la broderie. Il se trouve que je suis aussi un expert en broderie et je suis leur expert en broderie.
D'accord.
Aux frères Kugel. Eh bien, les frères Kugel s'intéressent passionnément aux horloges, sont certainement les meilleurs antiquaires de Paris et ils défendent contre une sorte de néo-baroquisme qui vient aujourd'hui à nouveau dans le goût des antiquités et dans même le goût de l'architecture. On retrouve les modèles nature, etc. Eh bien, ils défendent le classicisme et notamment la Renaissance inspirée du monde romano-grec. Et donc, ils s'intéressent au temps. Eh bien, effectivement, pour revenir à la notion de restauration, on ne restaurait pas au XVIe siècle. On greffait.
Oui.
On greffait et d'ailleurs...
On détruisait les châteaux pour les rénover, pour les refaire, faire ouvrir des fenêtres.
Puzzle architectural.
Alors, ça, c'est une autre chose. Effectivement, le cas du Louvre, qui est très, très, très en cours aujourd'hui à cause de quelques problèmes qui arrivent au musée, est tout à fait typique de cette aile de la cour carrée qui est refaite par le roi, qui ouvre des fenêtres et qui, eh bien, à la place du château médiéval, va créer une demeure avec paysage, parce que en réalité, nous avons inventé deux choses, nous les humains. Nous avons inventé l'écriture et le paysage. Le paysage est une invention humaine. Il n'existe pas dans la réalité, le paysage. C'est notre œil qui le constitue. Et on a découvert le paysage par les fenêtres. Et à l'instant, cher ami, vous venez de parler des fenêtres. Sans fenêtres, il n'y a pas d'architecture. Comme finalement, même aveugle, on a toujours un œil ou deux. Éventuellement. Et puis, des fois, la troisième, quand on est tibétain.
Par vous. Oui, c'est ça.
tu vois, la passerelle, on voit bien la passerelle. Il est difficile de mettre Pascal dans une case. Et donc, on a touché un peu de théologie, on a touché un peu de poésie, on a touché
d'histoire, d'architecture.
Oui, en quelques mots.
En quelques mots
simples. Mais nous sommes faits de strates. Et justement, c'est tellement intelligent ce que vous venez de dire. Enfin, je ne vais pas dire que vous avez été intelligent par hasard, mais vous avez constaté l'intelligence de votre invité. Ça veut dire qu'effectivement, nous sommes dans une même minute tout ce que nous sommes. Et les strates, justement, c'est la falaise. J'ai toujours pensé que nos vies étaient, couche après couche, une véritable falaise, et que à la fin de nos vies, nous sommes non pas couchés, nous sommes non pas à trois pattes, comme l'aurait dit effectivement le sphinx, ce que Deep découvre, n'est-ce pas ? Non, non, nous sommes juchés sur nous-mêmes, et nous montons, d'ailleurs c'est pour ça que nous montons au ciel. Donc, je veux dire, pour être sérieux, la restauration est une greffe. Oui. La charte de Venise a dit, et c'est normalement ce qui nous gouverne aujourd'hui dans le patrimoine, elle a dit, tel que vous trouvez un bâtiment, vous devez le conserver sans rien y ajouter, donc en ayant une attitude archéologique. En réalité, lorsque nous restaurons un château, nous y installons des ascenseurs, qu'ils soient hors d'œuvre ou dans l'œuvre, enfin ça, nous ajoutons aux toitures des sous-toitures parce que aujourd'hui la grêle vient très souvent crever les toitures anciennes. Donc, nous ne pouvons pas faire autrement que d'inclure le présent. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant. Et peut-être que la stratigraphie, ce ne sont pas les couches de matière, ce n'est pas autre chose que de l'espace-temps.
Mais alors, voilà, la poésie, toujours. Oui. Mais est-ce que c'est pour ça aussi que, finalement...
Comment ne pas être poète, chers amis. Je vais vous convertir.
Vous êtes d'ailleurs patron d'émission du Libre Journal de la Poésie.
Oui, mais tout s'explique.
Mais tout s'explique.
Oui, mais c'est-à-dire, oui, promenade au domaine, et flatterie au domaine de poésie, c'est quelque chose dont j'ai hérité. C'est vrai que... C'est d'ailleurs très curieux, parce que je pense que, de fait... lorsque Pierre Dehaye m'a demandé de collaborer à ces émissions, au fond, il ne savait pas tout à fait bien que j'étais poète. Et je n'avais pas publié autant qu'aujourd'hui. Mais il me l'a demandé parce que peut-être j'étais comme un fils spirituel pour lui d'abord. Et puis il avait découvert que nous avions le même amour de la beauté.
C'est ça.
Et je crois que ça fait le lien entre la poésie que vous évoquez. Vous essayez de me mettre là dans un coin de poète.
Non, bon, on évoque juste.
Oui, vous évoquez. Pouvoir, vous évoquez fort. Vous expliquer. Invoquez d'ailleurs plus qu'évoquer. Vous convoquez même. Enfin, vous savez, je peux jouer avec les mots.
Oui,
c'est une spécialité.
Je crois que c'est une émission pour laquelle on aura lâché les rênes.
mais quand même.
Non, vous avez lâché le roi.
Mais on va revenir à des traditions de l'émission, qui est quand même de présenter, parce que notre invité n'a pas l'habitude d'être invité. Donc, puisqu'on parlait des strates, on peut parler des strates familiales. Vous avez dans votre patronyme conservé les deux noms de vos deux parents.
Alors oui,
je vous coupe, mais c'est une façon de matérialiser les strates familiales et de les identifier.
Non, vous ne me coupez pas, vous m'interrompez.
Sécurité, faites venir la sécurité s'il vous plaît.
Non, parce que me couper là, je pense que vous n'y couperez pas. Mais... Non, en réalité, c'est très important parce que je suis quand même et français et suisse, je suis pleinement l'un et l'autre et par mes parents, et de fait, je vais révéler quelque chose à ce micro, puisque autant profiter de cette émission, je suis invité pour en dire un peu plus, puisque je parle des autres en général et avec les autres et pour les autres, même si égo parlant, de temps en temps, je parle de moi, ce qui est très agréable. Non, en réalité, je suis né d'un père qui ne savait pas lui-même. C'est un de mes amis qui s'appelait Jean-Loinel d'Estry, qui a fait notre arbre généalogique et qui a découvert que je descendais duc de Pince. Je descends directement du fondateur des Templiers. Donc, voilà, aussi direct qu'on puisse. Mais c'était des moines soldats, donc je peux descendre directement. Oui. Donc, il n'y a pas de problème.
Ils vous ont pas laissé l'adresse de
quelque
lieu.
Mais j'ai été élevé profondément dans l'idée de Jean-Jacques Rousseau, et puis d'une manière très particulière avec comme premier métier celui de musicien. Alors justement, je réfléchissais en venant à cette émission la différence entre métier et profession. Mais on pourra y revenir tout à l'heure parce que c'est très important. Et de fait, j'ai été élevé par ma mère, donc Simone Appenzeller. Et ma mère n'a même, je crois, jamais su... païen, ça veut dire paysan, n'est-ce pas ?
Oui.
Ça vient de
Paganus.
Oui, Pagus, Paganus, etc. Et puis Appenzeller, ça vient de abbé, Appen, et Zeller, ça veut dire cellule. Ça veut dire cellule de l'abbé. Ma mère, nous sommes protestants et nous sommes d'Aosrodon et nous sommes les chefs de famille de ce canton qui est un territoire unique dans l'histoire du monde, de toute l'histoire humaine, puisque nous sommes le seul territoire de la partition religieuse sans guerre interne. Nous sommes Haus-Rhodon protestant, Innon-Rhodon et donc catholique, et nous sommes deux sous-cantons formant canton. Et je suis très très fier de ça. Nous sommes un canton gothique, nous sommes du lac de Constance, qui est encore plus beau que le lac de Genève, même si j'ai été passer mon adolescence au bord du lac de Genève, et une partie de ma famille y travaille actuellement, donc j'y vais souvent. Et de fait, vous voyez, je suis en train de vous parler, je n'ai pas de télévision parce que je la refuse. Mais si vous me voyez, si je sors là, de ce que je ne fais jamais, de mon petit t-shirt, oui. Ma croix huguenote, c'est la croix huguenote que j'ai prise à maman quand elle est morte et je lui ai mis la mienne dans son cercueil. Donc je porte ma mère à mon cou, donc la réforme protestante. Et là, je porte au poignet une montre qui reste unique. Aujourd'hui, elle est unique au monde. Il ne reste plus qu'un exemplaire, celui que j'ai eu à mes 15 ans, donc il y a un petit moment, qui est une universale de Genève, qui vaut donc une fortune. C'est la première montre plate au monde qui a été, en plus, avec des signes abstraits, c'est-à-dire sans les
chiffres.
Et elle est de Genève, et elle m'a été achetée par mon père pour ma communion. Donc, je porte mon père à mon poignet, et je porte ma mère à mon cou. Et vous pouvez penser qu'apparemment... je le sais depuis longtemps, je n'en ai pris conscience qu'il y a moins de 6 mois, que tout d'un coup l'un et l'autre m'accompagnaient. Donc païen à Appenzeller, j'ai païen de Genève alors qu'il est français, normand d'origine viking, enfin avec toutes les origines, voilà, etc., de la famille qui sont assez complexes, et puis Hugues de Payens à l'origine, donc le temple, 12e siècle, etc. Et puis j'ai ma mère, 16e siècle, puisque nous sommes de la 3e alliance suisse, etc., et j'ai été un peu responsable de la communauté des Suisses de Paris pendant très longtemps pour mes ambassadeurs, voilà. Et de fait, la stratigraphie, finalement, l'héritage, c'est quelque chose dont on peut prendre conscience progressivement, parce que c'est pas parce que j'ai fait des études d'histoire, etc., parmi toutes mes études, que je suis stratigraphe, non, c'est que je pense que nous le sommes tous.
Oui.
Vous l'êtes. Et j'ai pas le culte, vous avez bien compris, c'est une réalité simple.
Et à la lumière de ce que vous dites, j'aime assez regarder, je me tourne vers le nouveau visuel de notre Radio Courtoisie, et j'ai l'impression de voir dans le C, une présentation graphique qui montre des strates. Et donc ça m'amuse de ce que vous pouvez nous offrir comme présentation, parce que je trouve que d'un point de vue culturel fort, dans les symboles d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier d'où on vient.
Mais on pourrait dire que Radio Courtoisie, on pourrait l'appeler la République de la Culture, RC.
C'est ça.
Voilà,
je suis d'accord pour culture.
Voilà. Et toujours, oui. Effectivement, le bien, le beau et le vrai.
République veut dire État.
Oui. Oui, on parlera pas parler de...
Respublica, si vous voulez, quand
voilà,
même.
On préfère
le
Respublica de Baudin
voilà.
que toutes les autres républiques. Mais effectivement, on est toujours, notamment dans le Libre Journal des Artisans, on travaille beaucoup, on parle beaucoup de transmission, de bien, de beau et de vrai, de la trilogie scolastique.
Ouais. Il y a aussi le Kalos Kagathos grec, puisque moi j'ai fait mes études de latin et de grec, et puis c'est normalement j'aurais dû être professeur de latin et de grec, mais j'ai fait d'autres choses, mais j'ai enseigné autre chose. Mais le Kalos Kagathos, vous avez parlé effectivement du beau et du vrai. Alors bon, là on est en philosophie, mais le beau et le bon, c'est très important. Et pour les Grecs, alors c'est intéressant, j'ai réfléchi à ça il n'y a pas si longtemps, en relisant mon évangile dans la Koiné, parce que c'est un autre grec, le grec de l'évangile, et ça fait un peu femme savante hein, ce que je raconte, mais enfin c'est comme
non,
ça
non,
que
non,
ça
c'est très bien,
ça. Et donc, je me suis dit que les Grecs mettaient le beau avant le bon, kalos, kai, agathos, parce que c'est quand on dit kalos, oui. Agathos, c'est quand on le prononce, sinon dans le grec moderne, ce serait kalos, agathos. Et si on est en chrétienté, on va mettre non pas le beau et le bon, on mettra le bon et le beau.
Oui.
Et c'est intéressant parce que finalement, peut-être, alors je me disais, lequel passe avant l'autre? Du moment qu'ils sont ensemble, ça fait couple. Hein, j'ai pas de priorité. Mais n'empêche. Alors au milieu de tout ça, il y a le vrai. Et j'ai eu l'occasion là d'avoir une sorte de dispute par SMS interposée avec une de mes amies. Dispute au sens débat.
Oui.
Enfin, c'est devenu une dispute parce que oui, bah oui. Alors ça, la disputation m'est très chère en tant qu'enseignement scolastique. C'était la troisième partie de l'enseignement scolastique, c'est-à-dire l'analyse, le débat au moment où les étudiants avaient la parole et débattaient, analysaient, etc. Ce que j'aime beaucoup quand j'enseigne. Et je fais ça avec. Je fais une heure de cours et une heure après de débat et ça c'est formidable. Mais effectivement. le vrai va se situer peut-être au milieu ou va se situer au-dessus. Enfin, en tous les cas, le vrai, c'est le grand débat de la philosophie. Hein. Et ça, on pourrait en débattre, mais peut-être que je suis chez les artisans. Vous avez parlé de quelque chose qui est fondamental après l'héritage, qui est la transmission. Pour revenir au geste d'or, la mission du geste d'or aujourd'hui, c'est la transmission. Et nous avons créé un nouveau compagnonnage qui s'appelle la personne d'or, enfin que j'ai créé, mais enfin le jeu et le nous s'associent, évidemment. Et la transmission aujourd'hui est fondamentale parce qu'il y a une rupture générationnelle actuellement, et particulièrement, puisqu'on va parler des artisans et des ouvriers de la main et de l'esprit, puisque les deux vont ensemble, comme me disait le père Feller, j'étais l'ami de Paul Feller qui a créé la maison de la pensée et de l'outil qui se trouve aujourd'hui à Troyes, dans l'hôtel du Mauroy, chez mes frères compagnons de l'association ouvrière, moi je suis lié à l'Union Compagnonique. Ben effectivement, la transmission est notre mission, c'est votre mission. Et les missions que vous faites, eh bien, est-ce que vous l'écrivez l'apostrophe E ou est-ce que vous l'écrivez LES, MI2SIONS ? Articulons.
C'est une très bonne idée.
Alors très bien, rebondissons sur l'articulation, parce que ceux qui connaissent notre invité dans son émission savent attraper sa verve et sa rapidité. Ceux qui l'écoutent au travers du Libre de Jean des artisans n'ont pas de problème de réglage de leur transistor. C'est un débit accéléré. Donc, courage à tous. Tenez bon. Nous combattons avec vous.
Et nous essayons de tenir les rênes de l'émission.
Jolie mais... petite critique par le côté, mais je l'admets et je me défendrai de l'autre côté.
Disons que je sais que mes vieux parents écoutent, donc j'aimerais bien qu'ils comprennent un petit peu le fond du sujet.
Mais mon garçon, tu leur expliqueras.
Pour ça, il faut que j'ai compris.
Oui. On est, vous êtes bien sur Radio Courtoisie, le libre journal des artisans, et nous accueillons aujourd'hui sur un enregistrement Pascal Payen-Appenzeller, et nous n'avons plus vraiment les rênes de l'émission. Donc, Pascal, vous avez parlé de métier-profession. Avant d'entamer, ensuite, je voudrais qu'on
une
évoque
sorte de panorama,
le cœur, celui qui va nous ramener sur Geste d'or.
Et sur les artisans.
Et sur les artisans, bien sûr.
Oui, alors, justement, c'était là, en longeant le mur de l'ancien couvent à côté de Radio Courtoisie, je réfléchissais à cette distinction entre métier et profession. En réalité, le métier peut devenir une profession. On dit souvent profession de foi, parce que quand même, je suis théologien, effectivement, oui. et j'ai assumé des charges pastorales jusqu'à ces jours-ci, ces mois-ci. Je peux continuer, mais enfin, pour l'instant, j'ai d'autres métiers ou d'autres professions. La profession, c'est ce que l'on exerce comme activité, et elle n'est pas forcément liée à une connaissance particulière, mais... Je pense que lorsque cette profession est exercée avec qualité, elle devient un métier. Je prends l'exemple de ma mère qui est malheureusement plus de ce monde, je l'ai dit tout à l'heure à propos de la croix huguenote, et qui était championne de France, je crois, de sténo. Voilà,
oui,
la sténo a totalement disparu. Elle m'a appris la sténo, que j'ai évidemment complètement perdue parce que je ne la pratique pas, mais c'est très très beau, ces signes codés, n'est-ce pas, pour raccourcir le temps d'écriture, et qui est une nouvelle écriture, et qui a été enseignée par cette école, qui était le symbole de la sténo-dactylo de France, l'école Pigier. Avez-vous pigé. La pige, c'est très important pour
l'âge
un maître.
Hein.
Ben, l'âge d'or de Pigier, voilà. Voilà. Eh bien, effectivement, elle avait fait peu à peu de sa profession de secrétaire de direction, ensuite elle est devenue patronne, etc. Puis elle est devenue ma mère, ce qui était en soi plus qu'une profession de foi.
Belle entreprise.
Parce que je n'étais pas quelqu'un d'extrêmement aisé à gouverner.
Et donc, du coup, pas facile à renvoyer.
Mais je pense qu'elle m'a aimé au point qu'elle ne voulait pas que je me marie, elle voulait me garder. Mais enfin, ça, vous savez, beaucoup de mères ont fait ça. Et puis, je me suis échappé. Donc, je me suis envolé plus exactement grâce à une femme que j'ai aimée. Et donc, de fait, la profession, c'est ce qu'on exerce au quotidien, qui va devenir un métier à partir du moment où on l'approfondit. Et tout est métier. Je veux dire que le geste d'or, puisque nous avons trois labels, j'y reviendrai tout à l'heure, bien, nous pouvons, par exemple, nous l'avons fait, la belle gamelle. Qu'est-ce que c'est que la belle gamelle ? C'est comme un label qui serait la gamelle, mais ça peut être aussi la belle gamelle, enfin, c'est un jeu de mots. C'est une association qui s'occupe de réinsérer des gens de tout pays en difficulté, etc., et qui, aujourd'hui, a Montreuil a une cuisine centrale extraordinaire et fournie pour, je dirais, la qualité et pour le prix, c'est remarquable, de quantité de d'entreprises, etc. Eh bien, cette femme qui a changé de métier, elle a changé de métier pour devenir la créatrice de cette association parce qu'elle a eu cette idée, ce besoin de rendre service et de partager. Eh bien, son métier n'est plus celui qui était anciennement le sien, mais il devient un métier parce que diriger des cuisines et diriger une entreprise, c'est un métier d'entrepreneur. Et ce métier d'entrepreneur devient sa profession, c'est-à-dire devient ce qui va l'occuper toute la journée auquel... ce métier auquel elle va se consacrer s'appellera profession parce que, eh bien, c'est pour ça qu'il y a des professes dans la religion. Et oui, c'est très important. On va, dans le mot profession, avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement et dans le métier, quelque chose qui est de l'ordre de la réalisation.
Donc, le technique...
Oui, le technique et le spirituel. Au fond, on pourrait presque dire le technique et le spirituel. La profession va très vite vers le spirituel parce qu'elle engage le corps et l'esprit, alors que le métier va engager le savoir. Et le savoir n'est pas l'être. Alors, on a beaucoup parlé de savoir-être. Et quand je dirigeais l'école des Clés d'Or, qui est l'école des concierges de palace, j'ai dirigé pendant 25 ans, et effectivement, on leur apprenait le savoir-être face à un client qui est au desk, pour parler anglais, ou au comptoir.
Oui, on va mettre une pièce dans le cochon.
Oui, j'étais sûr qu'ils connaissaient la radio.
Oui, oui, mais le comptoir n'est pas un mot qui correspond à un palace. On ne parlera pas de comptoir dans un palace, on parlera d'un desk, parce que c'est comme ça. Eh bien, en fait, ils vont se présenter l'un à l'autre. Eh bien, on parlait de savoir-être. Bien, savoir-être, j'ai toujours été assez soupçonneux vis-à-vis de ce nom composé avec un tiret. C'est pas le tiret qui relie le savoir à l'être. On ne peut pas savoir-être, on est. Oui. Et il y a quelque chose qui infuse, qui est mystérieux, et je crois beaucoup au mystère. Et je crois à cette relation subtile qui existe entre l'être avec un grand E et l'être avec le petit E. Et je me souviens quand j'étais au temple de Belleville, il y a, c'est un très beau temple qui a été construit à la fin du 19e siècle, au fond, une abside, et avec l'inscription « Dieu est amour ». Et je me posais la question de Dieu qui est inconnaissable, amour étant l'attribut de l'inconnaissable, ça passe par le verbe « être ». Et je me posais la question du verbe « être ». Ah, parce qu'il y a l'être avec un substantif, l'être avec un verbe. Et effectivement, je suis celui qui suis. C'est la traduction d'Yéhovah.
Oui, c'est ça.
Eh bien, ce « je suis celui qui suis » est, au point de vue grammatical et dans le sens que nous donne la syntaxe, est quelque chose d'absolument extraordinaire, qui nous permet d'ailleurs de penser que grâce au langage, et si grâce au langage on arrive à donner, que ce soit en hébreu, en araméen, ou en français, ou dans d'autres langues, l'équivalent de l'inconnaissable, c'est que nous avons été dotés de ce que je voudrais mettre là, ici, sur ce bureau, sur cette table, dans ce studio, c'est nous avons été dotés de l'imaginaire. Je suis aujourd'hui l'héritier d'André Malraux, par la famille qui m'a légitimé, et je crée les musées imaginaires partout en France. Mmh. Et je trouve que le musée qui est l'encyclopédie et l'imaginaire qui est la totalité des choses potentielles, nous contenons l'univers, nous sommes microcosme et macrocosme. Voilà ce que voulait Léonard de Vinci avec Chambord, puisque j'ai l'occasion éventuellement de vous parler de Chambord si vous voulez. Eh bien, effectivement... à ce bureau, en ce moment, il n'y a pas de différence entre la poésie et l'artisanat. Un poète est un artisan, et Métro Boulot Dodo, c'est mon ami Pierre Béarn qui l'a inventé, je l'ai reçu ici, et il est mort centenaire, et on s'est emparé d'un alexandrin où il y a trois autres propositions, il n'y a pas que Métro Boulot Dodo, il n'empêche que, voilà, c'est un poète qui se voulait poète ouvrier. Il est enterré aujourd'hui dans le domaine de Paul Fort. Voilà, donc en face de la tour de Montlhéry, c'est quand même pas mal. Oui. J'ai connu énormément de poètes, et je pense, et c'est ce que mes collaborateurs savent de moi, ils riront aussi, j'ai beaucoup de filles qui m'entourent comme ça et qui m'aiment bien, parce que voilà, comme ça. Eh bien, je dis toujours, et elles disent, oui, Pascal est un œuvrier. Et je crois beaucoup à ce mot d'œuvrier. Ce n'est pas un jeu de mots, mais non, l'opus a donné l'œuvre, et a donné ensuite l'ouvrier, parce que c'est plus facile, l'opus, on a contracté le O et le U en supprimant le P, ça a fait OU, mais moi je trouve que ça a donné aussi œuvre, et gardons le mot œuvre pour être œuvrier. À cette table, en ce moment, avec le studio, nous sommes quatre œuvriers.
Tout à
alors
fait.
Voilà une belle occasion pour Pascal de mettre, d'écrire ce mot en lettres d'or, puisque l'or a toujours fait partie de sa vie.
Ah oui.
Donc œuvrier compris, j'intègre, c'est magnifique. Clé d'or, on a compris aussi les 25 ans qui ont à l'écoute et prêts à servir toutes les demandes. Donc d'une exigence. Et maintenant le geste d'or.
La montre. Et le pendentif.
Et entre temps, j'ai créé quand même quelque chose qui était extraordinaire, qui était Flèche d'or café.
Oui, Flèche d'or café.
Oui, et puis à un moment donné, j'ai créé un cercle d'or. C'est vrai, et que mon père, pendant la guerre, Louis Cartier l'avait délégué, il dirigeait l'orfèvrerie Linsler, donc l'argenterie. Et mon père a été dans cette joaillerie pendant très longtemps, et j'ai été élevé dans la joaillerie. Et le nom de mon père, Roger Payen, est encore connu de beaucoup de vieux lapidaires, joailliers et autres, et ça, j'en suis assez fier. Bon, enfin, oui, on est fier de ce qu'on peut, mais oui, et puis par ailleurs, je pratique l'alchimie, donc je suis très lié à l'or.
Et restons dans la noblesse des matières, tout va bien.
Oui.
On est bien.
Mais la matière est noble.
La matière.
Regardez, vous deux, vous êtes faits de cette belle matière que j'admire, cette jeunesse éternelle.
70% d'eau.
Sinon 90.
Sinon bon. 90.
Alors revenons. Non,
revenons
pardon,
sur
je m'envole. Mais
non,
oui.
Non, mais alors vous êtes bien sur Radio Courtoisie, oui. Le libre journal, oui. Des artisans, oui. Avec Pascal Payen, Appenzeller, malheureusement.
Et de la vôtre.
Voilà. Et malheureusement, vous ne pouvez pas intervenir en direct parce que cette émission est enregistrée, mais vous pouvez toujours nous envoyer un petit message. Merci beaucoup.
C'était malin de notre part, finalement, de prévoir un enregistrement.
Oui.
On contrôle peut-être un tout petit peu les choses.
Oui.
Non.
Je suis pas sûr. Mais enfin, je vous remercie de me donner cette liberté.
Bah, écoutez, c'était une rencontre. C'est une rencontre, une discussion à bâton rompu, et on continue, ce qui est aussi, en fait, le fil rouge de notre émission, c'est d'avoir le temps de pouvoir prendre,
oui.
Le temps de discuter, de réfléchir à des métiers,
et de raconter. Mais
oui.
Vous le savez, vous mettez en lumière vos invités, et il était temps que ça puisse être quand même votre tour, et c'est d'autant plus touchant pour nous qu'on avait... Alexandra Latour avant, ce qui nous a permis de faire le lien entre vous deux. Si vous pouvez d'ailleurs peut-être tout simplement nous reparler de votre rencontre avec elle, pour faire finir ce lien et comprendre aussi l'action du geste d'or qui est très important pour les artisans et revenir sur son histoire.
La rencontre avec Alexandra est une rencontre très très belle parce qu'elle est très liée au geste d'or et elle est liée à la rue des Taillandiers. Les taillandiers, c'est un métier qui a un peu disparu, c'était les fabricants de toute la métallerie qui servait au faubourg Saint-Antoine. On dit c'est les métiers du bois, mais pour tailler le bois, il faut un tout petit peu de fer. Mmh. Et il y a un immeuble qui était un immeuble où se trouvaient quelques artisans, qui a été racheté par la ville de Paris et qui est restauré. Il devient une cité des artisans. Cette cité des artisans, avec son architecte, mon ami Eddy Vahanian, protestant d'ailleurs, et d'origine arménienne, comme son nom l'indique, très très bon architecte, qui a reçu d'ailleurs un grand prix du maître d'œuvre au geste d'or, et on pourra en parler, eh bien il est amené à restaurer et à réhabiliter, à restructurer cet ensemble pour la RIVP, la Régie immobilière de la ville de Paris, dont par hasard je viens d'écrire l'histoire, et qui va apparaître l'année prochaine comme un dictionnaire du logement social.
D'accord.
Et... voilà, je visite ces lieux, je fais les portes ouvertes, voilà, à plusieurs reprises avec Eddy Vahanian, et au deuxième étage sur rue, qui je découvre, Alexandra Latour. Et Alexandra Latour, nous sommes immédiatement en harmonie, parce que, voilà, elle me découvre comme patron du geste d'or, comme homme de l'architecture et de l'urbanisme, puis elle découvre que je suis également brodeur. J'ai écrit le maître livre sur la broderie, chez Armand Collin, que vous pouvez vous procurez, qui est la broderie libre, parce qu'il y a plusieurs types de broderie. Elle fait de la broderie à la machine Corneli, oui. Parce qu'elle fait de la broderie de couture, et moi, je ne fais pas de la couture, je fais de ce qu'on peut appeler le mobilier en général, et je suis lié... Alors, je suis lié à la broderie pour deux raisons. D'abord, en Appenzell, les hommes sont brodeurs. J'ai appris à tricoter, à coudre à l'âge de 9 ans, quelque chose comme ça, 9-10 ans. Je me suis d'ailleurs mis une aiguille à tricoter dans l'œil, j'ai failli me le crever, ma mère était inquiète, mais ce n'était qu'un vaisseau de bâbord qui avait sauté. Et j'ai donc ensuite été amené dans ma vie à travers faire connaître Paris en réponse au temps, qui a été une grande aventure de ma vie, qui est née en 1966 et dont le but original était une association qui devait faire visiter les ateliers. Et le premier atelier que j'ai fait visiter, 15 Place Gaillon, eh bien, c'était Jean Dinvan. Et j'ai lancé Jean Dinvan. Aujourd'hui, Jean Dinvan a des boutiques partout
maison,
en France.
Maison de Bond, voilà. Maison de mode.
Maison de joaillerie.
Non,
c'est pas d'accord. De mode, c'est de joaillerie. Mais la joaillerie peut être mode, oui, comme la mode peut être joaillerie. D'ailleurs, il y a beaucoup de maisons comme Hermès, Chanel qui ont
donné
dans le bijou.
Oui.
Et donc, effectivement, j'ai tout un passé sur l'artisanat, puisque 66, c'est un moment extraordinaire où je vais participer à la fondation de la Maison des métiers d'art, à l'hôtel de Sens, avec Jacques Anquetil, qui n'a rien à voir avec le coureur, non. Qui était un grand spécialiste de la tapisserie, du tissage en général, et donc on a ouvert l'hôtel de Sens qui était consacré, qui est aujourd'hui la bibliothèque des métiers d'art, ou une bibliothèque de prêt que je conseille à tout le monde d'aller voir, 1 rue du Figuier, Paris 4e, dans l'ancien hôtel des archevêques de Sens, qui était évêque de Paris en même temps, hein. C'est 15e siècle, ça a, oui. Été, ça a été très, très restauré, c'est un travail un peu à la Viollet-le-Duc, sur un bâtiment du 15e. Et de fait, lorsque on crée cette notion de métier d'art, c'est très très important, à côté de ces visites d'ateliers d'artisans que je vais organiser pendant des années et des années, eh bien, on va changer tout dans la vie des artisans. Parce que avant 1966, il n'y avait que le mot artisan. Nous allons créer l'artisan d'art.
Oui.
Et va se créer en 1974, et c'est l'origine, et je reviens à Pierre Dehaye. Pierre Dehaye, avant d'avoir son émission ici et que je sois aujourd'hui son héritier, eh bien, il est le patron de la Monnaie de Paris. Il va être chargé du rapport Giscard d'Estaing 1974 sur les métiers d'art, d'où va sortir la Société d'encouragement aux métiers d'art qui existe toujours, la SEMA, dont je vais devenir conseiller. Parce que déjà, je m'intéresse, je viens de le dire, à ces rencontres d'artisans, etc. Et pour la SEMA, je vais organiser ce qui n'existe plus. Et j'en suis désolé, enfin je ne suis jamais désolé, je déteste ce mot-là, je ne sais pas pourquoi je l'emploie. Pardonnez-moi, chers amis auditeurs, de
oui.
Je ne suis pas désolé, ni d'ailleurs isolé. On va organiser avec la SEMA des formations de jeunes enfants, mais aujourd'hui il y a une petite chaîne qui s'occupe de ça, mais pas de la même façon. On va les emmener dans les ateliers d'artisans, pas à leur faire faire des exercices en classe, pas à leur donner une relation, ça existe aujourd'hui avec un maître qui leur apprend quelque chose, non, les emmener en gros dans les ateliers, et on va faire ça très très longuement, entre autres actions, puis je vais m'occuper du FEMA, c'est-à-dire du fonds qui permettait d'embaucher un jeune apprenti pour un artisan, c'était évidemment un financement très important, puis je vais participer au maître d'art avec Jacques Toubon, voilà, tous ces gens-là qui concourent au geste d'or aujourd'hui. Autrement dit, je vais, sans m'en rendre compte au départ, et puis peu à peu comprendre que mon père, après avoir été dans la joaillerie, va reprendre un grand moulin, les moulins de Boissy-l'Aillerie, où je vais passer mon enfance, et je vais devenir d'ailleurs chef meunier. Mais j'ai fait des études, mais pas pour l'exercer finalement, puisque mes parents ont vendu. Mais mon père va se retrouver dans ce... Et le principal métier de mon père, finalement, était un métier de relation. Et finalement, ça fait deux fois que je prononce le mot finalement alors que je ne suis pas à la finale, le métier de relation, il est absolument essentiel parce que qu'est-ce que nous avons essayé de faire pour l'artisanat ? Que ce soit moi au départ avec Connaissance de Paris qui est devenu faire connaître Paris en réponse au temps, qui existe toujours, qu'est-ce qu'a essayé la SEMA ? Qu'est-ce que ont essayé les gens du ministère de la Culture et Jacques Toubon dont je viens de parler pour les maîtres d'art? Qu'est-ce que les grands ateliers? Qu'est-ce que toutes les organisations essayent? C'est de mettre en relation l'atelier avec le monde.
Parce
que j'ai connu quand même, moi, à cette époque, et j'en parlais encore l'autre jour, de ces vieux artisans, on dit toujours vieux artisans, comme s'ils n'avaient jamais été jeunes, mais si, mais qui mouraient avec leurs secrets, qui restaient enfermés dans l'atelier,
oui.
Puis c'était comme ça, et puis Paris était divisé entre Paris de l'Est, Paris du Faubourg Saint-Antoine et autres, Paris des artisans, et le Paris dit bourgeois, qui se trouvait à l'Ouest. Et il y avait quelques amateurs qui venaient de temps en temps visiter les ateliers, jamais les artisans n'y allaient, sauf quand ils étaient décorateurs qu'ils allaient installer, mais il n'y avait pas ce que, et ça, il y a des bienfaits à notre époque, cette relation aujourd'hui qui existe, ce désir de connaissance de la part du public, ce désir de se montrer, ils ont compris que c'était nécessaire, des artisans. Voilà, donc la notion d'artisanat, devenant artisan d'art, devenant maître d'art, devenant grands ateliers, et puis entrant là aujourd'hui au Geste d'Or, nous avons le campus de Versailles, le campus de Versailles où travaille mon ami Mme de Ronceret, eh bien c'est des jeunes de tous horizons qui là sont formés à des métiers, et ils sont dans les grandes écuries, ils ont effectivement une relation très étroite avec le Geste d'Or, et nous avons même fait une remise de prix chez eux. Vous savez, c'est assez agréable quand on est là et quand les jeunes sont là et que et par les fenêtres ils voient le château.
Oui.
Ils ont une notion de grandeur, de beauté. Au lieu d'être loin dans les quartiers de l'Est par rapport aux quartiers de l'Ouest, eh bien là, ils sont au milieu de nous. Et ça, il faut le dire.
Et au milieu du beau.
Et au milieu du beau, du grand, de l'impressionnant, de l'espace-temps. Au milieu de l'espace-temps, voilà.
Alors évidemment, le contraste est un peu fort avec toutes ces années dans l'architecture parisienne où il fallait pousser un porche et une porte cochère pour tomber sur un atelier en fond de cour. Donc évidemment, vous qui connaissez si bien Paris, on est passé de cet environnement-là à l'exemple que vous donnez à Versailles.
Oui, alors c'est vrai c'est ce que vous dites. Alors évidemment aujourd'hui on pourrait même pas rentrer dans les cours parce qu'elles sont protégées par des codes, c'est la sécurité. Nous ne sommes plus dans le même monde, effectivement, nous ne sommes plus dans le même monde. Et on a créé, j'étais l'autre jour à parler de l'aménagement de Paris justement et des premiers hôtels industriels. Et ben l'hôtel industriel qui est au bord du périphérique, pas loin du quartier Brunseau, où s'élève les tours d'un célèbre architecte, eh bien, de fait, aujourd'hui, on rassemble les artisans dans une même maison, la cité des Taillandiers, Alexandra Latour, dont on parlait tout à l'heure, qui, par ailleurs, a éprouvé le besoin d'avoir un autre atelier qui se trouve rue de Charenton, et peut-être en aura un autre, c'est-à-dire de ne plus être dans la communauté, même si la communauté est relative, parce qu'il y a des fêtes de temps en temps. Elle a fait un défilé dans la cour de Taillandier, le premier défilé.
Elle nous en a parlé.
Ben voilà, évidemment, et j'y étais, parce que je suis dans la vie des gens. C'est formidable d'être dans la vie des uns des autres, je vous dis ça.
Mais on est dans la radio aussi, on rentre dans les appartements des gens.
Mais c'est ça qui est merveilleux, on rentre dans une intimité que nous ne violons pas. C'est là que c'est quelque chose de délicieux. Donc, je voudrais dire que je prends un exemple de la relation que j'ai personnellement avec les artisans. Il se trouve que, entre dans ma vie la Bonne Graine, il y a quelques années. La Bonne Graine, c'est la grande école qui est fondée en 1866, où naît l'apprentissage. Elle naît de l'intérêt qu'avait l'impératrice Eugénie d'une part, et d'autre part des percurés. Ça s'appelait le patronage des enfants de l'ébénisterie, pour former des jeunes qui avaient passé leur communion. À l'époque, c'était donc 12 ans.
12 ans.
Maintenant, l'apprentissage commence à 16 ans. Et c'est là que va naître l'apprentissage, très différent du compagnonnage. Alors, je pourrais raconter de mon aventure aussi au compagnonnage, parce que elle va m'embarquer dans quelque chose qui est toujours présent dans ma vie, qui va transformer mon propre corps, ma propre manière de regarder le monde, ma propre relation au monde. Enfin, parce que c'est bien de parler de notre histoire personnelle, c'est bien de parler des artisans, mais c'est aussi important de parler de la communauté humaine. Faire couple, faire communauté, faire famille. Et c'est ça que le compagnonnage m'apprendra. Mais revenons à la Bonne Graine. La Bonne Graine est fondée pour l'idée que les jeunes, il faut s'en occuper, il faut les protéger. Donc il y a des patrons qui ont ce sens paternel. Ah, parce qu'il n'y avait que des hommes à ce moment-là. Donc ça va commencer pas du tout par une école avec des bâtiments. Le seul atelier qui était l'atelier d'école, qui va être installé au tout départ, c'est le dessin. Parce que le dessin, là, il faut des tables, il faut un équipement. Mais il y avait une seule salle. Et puis, peu à peu, ça va passer de la formation en atelier à une formation alternée. Je fais très court, parce que sinon, je prendrai toutes les missions pour parler de la Bonne Graine.
Vous faites comment, Pascal? Très court? Non, c'est pour savoir, on parle bien de ça.
Oui.
D'accord.
Je fais très court, j'ai sauté 150 ans là, d'un coup. C'est quand même assez court, ou assez audacieux. Je veux dire, le grand bonheur que j'ai eu dans cette école, qui forme aujourd'hui, où nous avons 400 élèves, nous avons 300 jeunes et nous avons 80 personnes qui, à 30, 40 ans, changent de métier et que l'on met dans les mêmes ateliers. Et ça, c'est très, très important. Et nous avons une quasi-mixité, égale. Et nous avons 13 métiers. Et nous avons, depuis les années 30, jumelé l'ébénisterie avec la tapisserie. Voilà, donc tapisserie de siège, tapisserie de voilage, etc. Puis, bon, et on a un métier, d'ailleurs, qui est unique au monde. On a le métier d'emballage d'œuvres d'art. Voilà, on peut emballer la Joconde, c'est nous. C'est...
D'accord.
Bah, eh bien, effectivement, là, les jeunes sont rassemblés. Mais en même temps, comme c'est par alternance, ils vont dans les ateliers et le travail aujourd'hui. Et voilà, la transmission. Tout le travail de l'école, c'est de les aider à trouver des maîtres d'apprentissage qui, entre-temps, car il y avait eu la grande crise, de l'abandon de la main au profit de la machine, sans la main, parce qu'il y a machine oui. à main. L'IA, par exemple, est une machine à cerveau. C'est pas du tout, l'IA n'est pas dangereux du tout. Je l'appelle pas intelligence artificielle, nous on l'appelle intelligence appliquée. Mais je veux dire, ou autre chose encore. Peu importe, je veux dire, du moment que la présence humaine est là, et la présence humaine, c'est celle-là qui a l'intuition de l'autre humain auquel elle destine son travail. N'oublions jamais que nous travaillons les uns pour les autres. C'est fondamental, ça, hein, l'artisanat. Nous sommes tous des artisans.
Mais nous sommes tous intelligents. L'intelligence,
c'est nous sommes tous promis à l'intelligence.
Oui, intelligere, c'est créer des liens.
C'est comprendre. Enfin, c'est vraiment le mot signifie comprendre. Vous savez, à l'âge que j'ai, puisque je suis votre aîné largement, je pourrais être votre père à tous les deux, ce qui d'ailleurs ne me rendrait pas, déçu, parce que je vous ferais progresser. Et donc...
On demande que ça.
Toujours la transmission.
Je veux dire qu'effectivement, je me disais l'autre jour, enfin il y a peut-être un an, que j'étais passé de ma jeunesse qui prenait à ma maturité qui comprend. J'ai ajouté qu'on apprend, comme, évidemment. Oui. Et oui, et comprendre, c'est. Et intelligere veut dire ça. Effectivement, souvent on me dit, les gens sont. Cette personne est très intelligente. Mais non, on parle de quelqu'un qui a des diplômes. C'est pas parce qu'il a des diplômes qu'il est intelligent. C'est d'un rien à voir. Oui. Parce que, voilà, il a pu à un moment donné faire l'effort pour emmagasiner une connaissance. Mais après, qu'est-ce qu'il en a fait? Et nous faisons les choses, les uns. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la seule phrase que je mettrais là, en permanence, partout, devant l'œil de tout le monde. Parce que c'est nous travaillons les uns pour les autres. Et je trouve que l'expression et la locution l'un et l'autre est fondamentale.
Formidable. Alors, vous venez de perdre des silos auditifs, chers auditeurs. Désolé pour vous. En revanche, c'est l'avantage de marteler une théorie. Et s'il y a bien une théorie que notre invité martèle, c'est l'idée de garantir la qualification du geste de bâtisseur.
Oui.
Et nous allons y revenir, mais peut-être que notre patron d'émission veut couper.
Oui, on va faire une petite coupure pour le bobino de notre très chère radio.
Eh bien, oui, avec plaisir.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Vous êtes bien sur le Libre Journal des Artisans. Donc nous avons continué la conversation pendant la pause musicale et nous continuons notre conversation.
La question était donc, de revenir sur le... Pardon.
Donc nous sommes avec... Pascal Payen, Appenzeller, vous êtes bien sur le Libre Journal des Artisans.
Et le dernier point, c'était effectivement de revenir sur ce qui était important pour notre invité, c'est-à-dire garantir la qualification du geste de bâtisseur. Et
C'est ça, le geste d'or. Vous voulez que je dise un mot du geste d'or?
Oh. Ah bah, allons-y.
C'est un petit rapport avec l'émission, oui, oui.
Parce que j'ai voulu dire, à travers une courte biographie ou une sorte de récapitulatif de ses expériences, les métiers de mes parents, l'entreprise d'orfèvrerie, l'entreprise, j'ai été élevé dans l'hôtel particulier de Louis Cartier, rue d'Argenson, tout ça, et c'est Louis Cartier qui, grâce à Santos Dumont, a mis au point la montre bracelet, hein. Oui. Un petit détail, mais bon, j'y tiens. Et je tiens toujours aux héritages et à rappeler d'où nous venons, c'est pour
Merci.
Moi fondamental. Et puis aussi, ensuite, ce que je fais dans ma vie, alors que normalement, j'étais promis à être prof de lettres, puis je fais de l'histoire, puis je deviens tailleur de pierre, et voilà, et puis ensuite, j'entre comme maître d'œuvre, voilà, dans l'aventure de l'architecture, grâce à mon nouveau père. J'ai eu 6 pères, hein, c'est tout à fait extraordinaire. Pierre Dehaye est mon 6e père. Mais des pères au sens propre, vraiment. Mmh. Adoptif, peut-être, mais voilà. Et mon 5e père, Maurice Minost, était l'architecte du Marais, et on a mis au point le plan de sauvegarde du Marais, etc. Et donc, plan de sauvegarde de ces quartiers sauvegardés, créés par la loi Malraux. Et là commence mon aventure avec André Malraux, donc c'est assez loin, et c'est presque toute ma vie. Et donc, effectivement, la question que je voudrais débattre à propos de cette qualification, la qualité du geste, elle est très importante dans la mesure où quand naît le geste d'or, il y a une vingtaine d'années, je viens d'être placé par les ABF, les architectes des bâtiments de France, dans une entreprise qui existe toujours, qui s'appelle Amonit, qui fait de la chimie du bâtiment, qui est une entreprise d'assemblage de produits pour traiter des façades. Et le ravalement qui était autrefois dans la tradition, qui avait été oublié, remis à l'honneur ravalement des façades par André Malraux, et beaucoup d'entreprises vont se précipiter comme aujourd'hui sur le calfeutrement pour faire des ajouts aux façades qui ne sont pas forcément de bonne qualité pour soi-disant nous permettre de mieux vivre à l'intérieur, mais je pourrais y revenir. Et nous décidons avec quelques collègues, et dont Gilbert Gallieni, qui était à ce moment-là vraiment un homme d'une grande honnêteté, descendant du général, avait été conservateur de Notre-Dame, me repassa le flambeau d'ailleurs, on dit, bah tiens, et vous allez voir que ça touche la poésie, tout le monde dit des choses avec des mots différents. On n'a pas le même vocabulaire pour déterminer telle ou telle étape du chantier, telle ou telle technique. Et j'ai fait ça pour les points de broderie. J'ai établi tout un catalogage des points de broderie pour qu'on ait le même langage, quel que soit le pays. Voilà. Et ça a été un travail considérable qui est donc dans ce livre sur la broderie, là, qui est cher à mon collin. Et puis, je fais une publicité parce que c'est quasiment épuisé, donc ce n'est pas la publicité d'un livre qui est dans les coursives en ce moment. Et effectivement, on met au point ça. Et on met au point ça pour s'occuper du patrimoine visible, c'est-à-dire des façades d'immeubles. Depuis que Rambuteau, je connais très bien la famille, j'ai même fait une conférence sur Rambuteau à la mairie de Paris. Alors, c'est Rambuteau qui a précédé Haussmann et préfet de la Seine, amateur de jardin, et qui a créé l'alignement. Il a créé aussi l'expropriation. Il a créé la première grande rue construite selon ce principe qui porte son nom, qui est la rue Rambuteau, pour la partie la plus stricte qui se trouve entre la rue du Temple et la rue Beaubourg. Et de fait, on a voulu, par ces mots, faire que tout le monde s'entende est le même critère de désignation. Désigner, désigner. Vous savez que c'est ce désigner qui a donné le design aujourd'hui. C'est un vieux mot français, dessin, qui a été adopté par les Anglais et qui nous est revenu sous le nom de design. Et aujourd'hui, la bonne graine fabrique avec ses 13 métiers, alors que Boulle est beaucoup plus lié au design. Et de fait, on va passer au rang de la rue, puis on va passer à la ville, au territoire, et puis on va, entre-temps, on s'était intéressé au clos couvert, on va s'intéresser à tout ce qu'est le bâti. Et puis si on t'intéresse au bâti, et c'est ça le geste d'or, à la qualification du bâti à travers le geste, alors le geste, revenons au geste aussi, c'est très très important. Vous savez que le geste, c'est évidemment l'acte qui permet d'avoir cette mobilité compétence, oui, l'habileté. Le geste, il est fait d'habileté et de connaissance. C'est les deux mots qui le conditionnent. À l'origine, nous ne nous appelons pas comme ça. Nous sommes nés sous le nom de chemin de fer d'or, truelle d'argent et berthelet de bronze. Et oui, ce qui paraît compliqué, parce que...
C'est presque révolutionnaire.
Non, c'était que dans le contexte, l'entreprise dans laquelle j'étais entré, Amonit, avait un magasin d'outils et il voulait mettre en valeur le chemin de fer qui sert pour les tailleurs de pierre, et puis la truelle pour le maçon, et puis le berthelet pour le plâtrier. Et en réalité, un jour, en discutant, autour d'une table, comme ici, dans ce studio, entre quelques-uns d'entre nous, et avec notamment des architectes. Enfin, on était en train de réfléchir, on était au tout début. Voilà, et quelque part, un de mes amis architectes, Henri Zinaï, que je cite parce que c'est un très bon architecte du quotidien, de la copropriété, etc. Il y a un groupe des architectes de la copropriété à Paris et à Bordeaux. Mmh. Et il me dit, mais au fond, tout ça, c'est quand même, c'est le geste. Et tout d'un coup, on se dit, on va supprimer tous les noms d'outils. Parce que les outils sont contenus dans le geste. Oui. C'est très important. À l'heure où je vous parle, je suis en train de créer un très grand musée de l'outil à Salbris, où j'ai d'ailleurs un des sièges du geste d'or, c'est la capitale des forêts de chasse. Et cette maison de l'outil va travailler avec le collège industriel de jeunes qui peuvent rentrer avant 16 ans, c'est 15 ans, et qui vont, par séquence, puisqu'on a tous les métiers qui sont représentés dans ces 2000 outils qui nous sont légués, qui sont en parfait état de marche, ils vont apprendre par métier à manipuler ces outils et à comprendre que ces outils ont été façonnés à la main de ceux qui les ont conçus. Parce que, voilà, c'était les marteaux de Monsieur X, c'était la truelle de Monsieur Y. Et effectivement, cette notion du geste, elle va être accompagnée de ce signe que vous me voyez et que nos amis auditeurs ne voient pas, puisque je n'ai pas voulu être sous la caméra, qui est le symbole du geste d'or, qui est le G. Et le G, chez les compagnons, c'est trois grades. C'est le génie, c'est la géométrie et c'est la gnose. Évidemment, la gnose, la connaissance des mystères. Et ce G, je l'ai, voilà, je l'ai là. Oui, oui, en forme d'abord de labyrinthe, avec au centre la barre d'or qui est Jérusalem, comme dans tous les labyrinthes, et autour, la périphérie est une ligne ondulée parce que c'est de la géométrie approximative. Qu'est-ce que c'est que la géométrie approximative ? C'est la quadrature du cercle. Et ça, nous l'avons réalisé à la Tour Eiffel. Au premier étage, vous avez une dalle de verre aujourd'hui, Saint-Gobain, qui est apparemment ajustée à la périphérie, mais en réalité, elles n'ont pas les mêmes formes, mais elles ont l'air de. Et comme on ne peut pas cadrer le cercle dans le carré, mais on le peut par approximation, on peut les faire en quelque sorte coïncider par un trompe-l'œil visuel. J'étais là cette semaine où nous enregistrons, puisque nous enregistrons le 14 décembre. Oui, j'étais cette semaine à l'Académie des sciences avec le secrétaire perpétuel qui, pour un certain nombre de mes amis de l'École des Ponts, faisait toute une conférence sur la géométrie illusionniste. Eh bien, effectivement, c'est une géométrie illusionniste et c'est donc la géométrie qui contient le mystère du labyrinthe au sein duquel l'or représente Jérusalem. C'est ça, le geste d'or, c'est le geste de la ville, évidemment, de l'Apocalypse, de la Révélation. Et au fond, quand vous avez produit un objet dans vos mains ou par vos mains, associé à votre esprit et l'outil étant au milieu le jouet, en quelque sorte, d'un jeu extrêmement sérieux, eh bien, vous avez une révélation, vous voyez apparaître. Notre-Dame de Paris est une épiphanie.
Oui.
C'est notre Indiana Jones du bâtiment, quand même. Merci de nous rappeler l'importance des outils, des gestes.
Et oui,
et des symboles.
Je me suis peut-être un peu envolé là, mais.
Ah non, mais on est parti avec vous, on était sur les ailes. Et effectivement, nos auditeurs, je pense aussi, lorsqu'ils entendront notre émission.
Et alors, effectivement, le geste d'or, ben, peu à peu, il va se rendre compte que tout l'intéresse. Et aujourd'hui, il a 19 départements, il a plus d'une vingtaine de sièges en France, c'est un grand mouvement. Et c'est un mouvement dans lequel, dès le départ, nous avons dit deux choses. Nous avons dit, je reviens à l'héritage, je reviens à la transmission. Le patrimoine n'est pas seulement ce dont on hérite, mais c'est ce qu'on transmet.
Oui.
Et j'ai découvert ce beau mot que je n'aimais pas au départ, qui est le mot intermédiaire. Nous sommes des intermédiaires, nous sommes des entre-temps, et nous sommes au milieu du temps. C'est une chose absolument extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est que dès le départ, et c'est aussi ma double qualification d'architecte, d'ingénieur, c'est que j'ai voulu associer les architectes et les ingénieurs, parce qu'effectivement, nous avons voulu à la fois redéfinir les mots du patrimoine pour qu'on s'entende et qu'on travaille bien ensemble, qu'on parle la même langue, hein, quelle que soit la langue, mais la même langue qualifiante. Mais nous avons voulu aussi supprimer les querelles entre ceux qui ont l'intuition, on va dire les architectes, et ceux qui ont le calcul. Et les deux sont ensemble. Enfin, le geste d'or est un lieu de réunion des savoirs et des collaborations. Et depuis très peu de temps, nous avons fait rentrer chez nous les économistes. Sans un économiste qui va vous faire des calculs sur les matériaux, vous ne pourriez pas construire. Nous avons les programmistes qui imaginent bien avant le début du chantier comment on va traiter d'un bâtiment et comment on va le traiter. Et ensuite, à partir du programmiste, on va commencer à entamer des dessins, etc. etc.
Et on peut se permettre l'image de la chaîne, du coup, parce que vous parlez d'intermédiaires, mais du coup, ce sont des maçons.
Mais comme vous avez raison, je suis désolé, une deuxième fois que je prononce ce mot, de vous donner aussi souvent raison.
La noblesse des maillons.
Mais oui. Et la chaîne d'or, elle est très importante. Elle est d'autant plus importante que nous avons donc trois labels. Nous avons le geste pour tout ce qui est, dans les 19 départements, l'acte de création et d'organisation de ce lieu qui va abriter, qui va être utilisé, qui va servir. Deuxièmement, nous avons le Caire. Alors, on me dit, oui, c'est anglais. Mais non, c'est un mot français qui est devenu anglais, que les jésuites, et un jour, en lisant Études, parce que je suis abonné à des bonnes revues quand même, qui est la revue de la Compagnie de Jésus, et qui est une des meilleures revues que je connaissent au point de vue de la pluridisciplinarité. Moi, j'ai enseigné avec le père de Charentenay quand il dirigeait le centre Sèvres. Il m'impressionnait parce qu'il avait 12 ans de polytechnique et 12 ans de jésuite. Alors, moi, j'ai aussi beaucoup d'études. Mais maintenant, je pense que je suis supérieur. D'abord, parce que je survis. Puis, deuxièmement, parce que je suis constamment en train d'étudier et que je dis à tous, et je vous le dis à vous et à tous ici, devenez, si vous ne l'êtes pas, restez, devenez apprenti.
Éternellement apprenti.
C'est le maître mot. Et donc, effectivement, nous avons ce qu'hier les jésuites disaient, c'est prendre soin. Et bien, effectivement, c'est le deuxième label pour l'usage, pour la soutenabilité. Il ne faut pas employer le mot durable, il n'est pas bon, il est très limité. Et le sustainable anglais vient du soutenabilité français, et c'est ce mot que nous employons. Donc, et d'ailleurs aujourd'hui, nous essayons et nous luttons pour que la garantie décennale du bâtiment devienne une garantie trentenaire. Nous créons des nouveaux matériaux, des ardoises que nous récupérons à partir de la poussière d'ardoise. On a retrouvé le secret des pyramides d'Égypte à ce propos. Qu'elle soit garantie 50 et 100 ans. Bon, voilà, donc, pour entrer vraiment dans le temps long. Et puis, nous avons, et pour revenir à la chaîne, nous avons la personne d'or, c'est-à-dire la personne qui a la compétence et qui peut transmettre. Et puis, nous avons créé, forcément, si elle transmet, il y a un binôme, donc il y a le binôme d'or. Et puis il y a le troisième, puis il y a le quatrième, et ça constitue la chaîne. Et la chaîne des compagnons, voilà, on croise les... Voilà, je l'ai montré à mes amis, mais vous la connaissez. Et quand on fait la danse, puisque voilà, quand on a nos fêtes, on a la Saint-Jean d'hiver en ce moment, enfin bon, etc., puisqu'on fête les Saint-Jean d'hiver, les Saint-Jean d'été, et quand on danse autour du...
Solstice.
Et quand on danse absolument autour du feu, et qu'on fait la chaîne, et qu'on chante, parce que nous chantons évidemment, eh bien, effectivement, il y a là quelque chose d'indissociable. Et effectivement, vous avez bien compris que si Saint-Père réformanda, si la réforme, puisque je suis un enfant de la réforme, et de Luther et de Calvin, doit toujours être réformée, elle ne doit pas pour autant être une rupture. Elle doit être, et d'ailleurs, il y a... un très célèbre traité d'illuminé du XVIIIe siècle de Martinez de Pasquali qui s'appelle le traité de la réintégration, qui est une réintégration au sens biblique. Mais c'est très intéressant à lire pour n'importe quel chrétien, je vous conseille de lire. Eh bien, je trouve que notre époque et que le geste d'or est en train de réintégrer les uns avec les autres, les métiers, les uns par rapport... Nous venons de récompenser la maison de Pierre Loti. Eh bien, nous lui avons donné un grand prix, un millésime, parce que nous avons des distinctions suprêmes. Et pour Elsa Rico, je donne son nom, puisque c'est une grande architecte que j'aime beaucoup, 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 qui a été beaucoup primée. L'année dernière, elle a été primée pour la Fontaine des Innocents, et ainsi de suite. Eh bien, dans cette maison de Pierre Loti, toute petite, tant de métiers, plus de 25, beaucoup étaient présents. Hein,
et tant de pays.
Tant de pays, oui.
Et alors, par ailleurs, oui, Julia Vio, puisque c'était son nom. Mon père était marin à l'origine. Et pendant la guerre, il est parti avec son sous-marin à Alger. Enfin bon, voilà. Donc,
Oui.
Vous savez, d'ailleurs, je voudrais dire une chose. Qu'est-ce que c'est qu'un poète? Oui, une chose. Deuxième.
Voilà, deux.
Mais je vais me préparer de dire ça et de rendre hommage à un de mes fils qui s'appelle Brice et qui est historien et germaniste. Eh bien, qui est le cadet de mes enfants de sang, puisque j'en ai adopté beaucoup d'autres. Eh bien, un jour, il est devant moi, il me regarde, il a des yeux verts semés d'or, et puis je suis toujours ébloui par mes enfants, quels qu'ils soient. Et oui. Et il me dit, tu sais, papa, ton fils est un aventurier. Et mon père l'était, je n'aimais pas le mot aventurier, parce qu'il était pour moi connoté de quelque chose, enfin, peut-être pas assez bourgeois, enfin, c'est très bête ce que je dis. Et puis tout d'un coup, je regarde mon fils dans les yeux, et je lui dis, mais ton père aussi est... Et quand je regarde ma vie de tous les jours, d'aujourd'hui, et de demain, et d'avant-hier, et d'après les années qui sont passées, eh bien oui, l'aventure, être aventurier, eh bien, et quand on a un chantier, c'est une chose merveilleuse, parce que même si j'ai 1000 métiers, même si le geste d'or c'est 19 départements, jusqu'au spatial, voilà, l'IA, aux routes, à tout ce qu'on veut, et bien sûr l'agro-silvopastoralisme qui est très important chez nous, puisqu'on a associé l'agriculture, la forêt et l'élevage, ben, effectivement, notre vie est une aventure. Et je prends comme exemple la direction de la santé qui est chez nous. On a une immense direction de la santé parce qu'aujourd'hui, les Français sont souvent assez malades et qu'on est très préoccupé par ça pour retrouver l'équilibre, etc. Eh bien, la santé est une aventure incroyable. Notre corps de chaque jour. Et si vous voulez, l'aventure comment je pourrais la traduire ? Comme poète, comme tailleur de pierre, comme geste d'or ou autre métier de ma vie, et comme pianiste, parce que là, je viens d'acheter mon troisième piano, je suis emballé, je joue de mon Yamaha, la première génération, c'est génial. Voilà, je joue un tango ce matin, ça met en forme pour la journée, comme ça. Eh bien, je dirais que tout ce que j'ai résumé là en si peu de temps, c'est avoir, comme me disait mon ami François Bouchet, il dirige le feu chez nous, on a les quatre éléments, il est l'ancien patron de l'Institut d'astrophysique de Paris, maintenant il s'occupe du Japon, et on parlait de la masse noire des 13 milliards d'années, c'est lui qui a découvert avec son équipe sur le projet Planck les 13 milliards d'années d'origine de l'univers, et puis je lui dis mais il y avait une masse au départ, il me dit bon, et puis maintenant on ne sait pas jusqu'où va aller l'extension de l'univers, donc on ne mesure pas le temps qui vient, et le temps d'avant, il y a quand même un temps d'avant. Et il m'a dit, écoute, et je me permets de dire ça au nom de François Bouchet, qui est un homme extraordinaire et vraiment un des grands astrophysiciens. On a la meilleure école d'astrophysique du monde ici en France, il faut le dire. Oui. Mmh. Eh bien, il me dit, bah écoute Pascal, je crois qu'on peut dire qu'on est au milieu de l'éternité. N'est-ce pas l'aventure absolue ? Et l'éternel, mon Dieu, tout d'un coup devient l'éternité des astrophysiciens et de nous tous.
C'est la définition du présent.
Voilà.
Mais ce que j'apprécie, c'est le réflexe permanent de savoir revenir sur des, pas des préjugés, mais intermédiaires, je n'aimais pas trop, mais j'ai réanobli la chose, j'ai compris. Aventure, émancipé à 17 ans, croquant la vie, l'aventure, vous, dès le début, vous avez quand même pris le char avec tous ces chevaux qui vous tirent vite et loin,
oui.
Donc vous savez ce que c'est que l'aventure. Et vous avez réanobli le mot également.
Mais je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord.
J'apprécie beaucoup entre parenthèses parce que je suis sensible aux appréciations.
Il y a une notion d'aventure. Je parle d'aventure. Je l'illustre par aventure amoureuse.
Chez moi, c'est aussi très bien.
Il était majeur.
C'est un instant fugace.
Et l'instant d'éternité, qu'est-ce que vous en faites ?
Non, mais peut-être que notre patron d'émission se base sur des histoires personnelles que nous ne connaissons
peut-être.
Pas.
Non. on est sur quelque chose qui est défini temporellement, qui a un début, qui a un commencement et une fin. L'aventure.
Alors non, il y a pas de fin.
Mais
vous avez vu la coda en musique, t'arrives à la fin, tu reprends le début. Et c'est le mouvement perpétuel. Moi, je suis l'homme du mouvement perpétuel. Alors ça, oui, sûrement. Et je vais vous donner
vous n'êtes pas l'homme du mouvement perpétuel. Vous êtes aussi l'homme de l'instant suspendu, parce que là, nous avons passé une bonne heure.
Oui.
Et
on l'a pas vu passer.
On l'a pas vu passer. Et d'ailleurs, vous êtes sur le Libre Journal des Artisans, dirigé par Benoît du Châtelet, dirigé par Pascal Payen Appenzeller.
Moi, j'ai pas l'air de diriger.
Qui est notre invité et qui nous parle du geste d'or et de plein d'autres choses.
Mais on a compris que notre invité était du bâtiment.
Oui. Vous savez, il faut que vous lisiez les uns et les autres Gérard de Nerval, qui était un merveilleux journaliste en dehors d'être grand poète, et dans ses articles il y a un article sur une soirée chez les compagnons et qui était plus ou moins toléré dans la France de Louis-Philippe puisque bon, il s'est suicidé en 55, donc 1855 je vais dire, donc début du Second Empire, donc c'est surtout la France de Louis-Philippe. Et c'est un soir, ils se réunissent, c'est un fond de cour, il y a une petite lumière. Et vous êtes du bâtiment, dit-on. Et oui. Et être du bâtiment, c'est quelque chose qui est très fort parce que finalement, je ne savais pas dans ma vie aventureuse. Je dis bien aventureuse. Oui, parce que je fais un jeu de mots là entre l'aventure et le rire. Oui. Elle est aventureuse, ma vie, parce qu'elle est toujours rieuse. Ma mère me disait que quand j'étais dans mon landau, les gens s'arrêtaient en disant « Mais pourquoi ce bébé rit tout le temps ?» Alors, voilà. Donc peut-être que j'ai eu ça, alors que j'ai eu enfant unique et que je ne pouvais pas toujours trouver matière à rire. Mais enfin, donc, je veux dire, ce qui est extrêmement intéressant et important dans tout ce que l'on a pu dire, et vous avez fait allusion, entre parenthèses, à mon émancipation à 17 ans, je ne sais pas où vous l'avez trouvé, mais ça doit traîner ici et là. Oui, effectivement, mes parents avaient une difficulté à s'entendre, et j'étais un assez brillant sujet, donc j'étais en fac depuis très longtemps déjà, parce que j'ai passé mon bac à 15 ans. Enfin, maintenant, il y en a qui le passent à 8 ans, donc je suis vraiment en retard.
Oui, mais le niveau n'est pas le même.
Oui, peut-être, mais je ne sais pas. Peu importe. Donc, je suis parti effectivement à l'aventure. Mais quand je réfléchis bien, maman voulait que je sois pasteur, alors j'ai fini par lui obéir, mon père voulait que je fasse...
Et pianiste.
Et puis, ah oui, ça, alors pianiste, c'était vraiment...
C'est une obsession. On peut pas rire et jouer en même temps.
Oui, d'ailleurs, je ne ris jamais quand j'ai des tics, même quand j'ai des tics. Mais mes enfants, quand ils font de la musique, ont des tics aussi, donc je sais qu'ils sont de moi. Du moins, ceux que j'ai fabriqués, j'ai participé à leur fabrication. Et de fait, je ne savais pas du tout, et mon père voulait que je fasse Sciences Po, l'ENA, tout ça, puis j'ai eu des opinions politiques qui m'ont empêché de faire, parce que voilà, j'ai participé à l'Algérie française, bon, c'était comme ça, mais ça ne faisait pas bien voir de l'ENA. Donc, et c'est très bien que je n'ai pas fait l'ENA, oui, mais j'ai découvert bien. Là aussi. Je vais vous dire, mes amis, je fais une confession qui n'a rien à voir avec le geste d'or, mais qui est pour moi le plus beau des gestes d'or. Je suis donc enfant unique, et il y a très peu de gens qui vont sur la tombe de mes parents qui sont au cimetière d'Ivry. Ils sont tous les deux, parce que maman a dit, je prends deux places, comme ça on sera tous les deux tranquilles. Bon, comme ça, on n'ira pas les embêter. On n'ira pas les réduire, puisque ça se fait. Oui. Et je suis cela, cette année, sur la tombe de mes parents, le jour, le dimanche, là, voilà, où j'y vais une fois par an. Et j'ai fait la paix avec eux, et je me suis reconnu en eux, et ça, c'est une vraie aventure que je conseille à tout le monde de faire, de se reconnaître dans le miroir qui est notre miroir des origines. Parce que je ne suis pas le diplomate par l'ENA que mon père voulait, mais je suis devenu un négociateur fou. Et j'ai beaucoup de diplomatie, contrairement à ce qu'on peut penser, je sais négocier. Sauf que, évidemment, je ne serai pas un diplomate d'État puisque je n'obéis pas. Vous avez bien compris que je n'obéis pas vraiment. Hein.
Non,
j'ai une forme d'expression de la liberté qui est assez revendicatrice. Et puis, d'autre part, comme ma mère, eh bien, je suis un homme de culture et impossible à vivre, mais comme elle d'ailleurs et comme lui. Mais je me suis reconnu dans chacun des deux. Et maman a écrit sur la tombe, c'est très protestant, « Christ est vivant ». Et je ne serais pas à cette table si je n'étais pas le disciple du Christ qui peut laisser dire et qui peut dire de lui-même sans besoin de le dire, mais le faire comprendre que Christ est vivant. C'est une affirmation évangélique extrêmement forte. Et Christ n'est pas le nom de Jésus, c'est son surnom.
Oui.
Et oui, et donc je pense que nous sommes tous appelés à devenir les Christ les uns des autres. Et quand un artisan, et je prends Andrés, je récompense Andrés, merveilleux ferronnier d'art, de la Savoie, de la montagne. Quel est cet homme ? Il se présente, il a eu un geste d'or cette année, car nous récompensons beaucoup les métiers, voilà, et quel qu'il soit, la couture, puisqu'on a récompensé Alexandra Latour, je lui ai organisé un défilé, elle a dû lui dire,
oui, peut-être, tout à fait,
voilà, le geste d'or, on a organisé un défilé chez les maçons parisiens, qui est la plus belle entreprise au point de vue architecture récente, à Massy-Palaiseau, et un merveilleux, ça restera un souvenir formidable d'avoir organisé chez les gens du bâtiment, un défilé de mannequins avec la veste de jean recyclée, etc. Bon, etc. Puisque ça s'appelle la veste de jean maintenant, etc. Eh bien, effectivement, cette notion donc, que je viens de développer du Christ, cette Andrés, ce ferronnier, il a fait sa démarche de compagnon. Et puis, voilà qu'il faut qu'il travaille. Il doit interrompre. Il n'est jamais reçu, c'est-à-dire qu'il y a trois grades. Hein. Il a donc jamais fait son travail de réception. Donc, il était à la société ouvrière. Il va, au contraire, avoir une vie de compagnon. Il a des apprentis qu'il met en valeur. Nous allons le récompenser cette année pour ça. Il voudrait réintégrer le compagnonnage. L'association, et même chez moi, à l'Union Compagnonique, on dit « mais il n'a pas fait son travail de réception ». Et pourtant, il a fait le tour du métier, il a fait véritablement son tour de France. Il a l'esprit. Et vous voyez, chers amis, qui nous écoutez, être un artisan, c'est être un homme libre, qui quelquefois a des regrets parce que la société ne lui reconnaît pas ce qu'il est devenu, pas forcément dans les normes, parce qu'il faut inventer sa vie tous les jours. Mmh. Et c'est en ce sens que l'aventurier et l'inventeur vont ensemble. Je le dis très sérieusement là.
Non, mais c'est oui. Pour ça que nous n'osons pas, nous ne permettons pas un trait d'humour sur un sujet aussi sérieux. Mais comme le temps file et que votre parole également... Je voudrais qu'on puisse prendre le temps aussi que vous nous, pour rester dans le registre du geste d'or et de ce qui vous tient à cœur, que vous nous expliquiez les points communs entre un boulanger et un couvreur.
Alors, quand je me suis occupé du classement à l'UNESCO, à la demande des couvreurs, GPPC, qui est le groupement des couvreurs à la FFB, Fédération du bâtiment, quand ils me sont venus à moi en me disant, écoutez, nous, on essaye d'être... voilà, classé par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité comme savoir-faire.
Comme c'était arrivé pour les boulangers et la baguette.
Comme ça va arriver pendant ce temps-là, parce que je vais vous révéler un secret. Il se trouve que le patrimoine matériel, c'est que le ministère de la Culture qui décide. Par contre, le patrimoine immatériel, c'est le président de la République, après la décision du ministère de la Culture et avant la décision des pays du monde entier, comme ça va se faire à la fin de 2024, au Paraguay, où nous avons...
2025
De 2024.
Ah, non, c'est fini.
Ah oui, c'est fini. C'est ça. 2020, je ne me trompe que rarement. mais merci, j'aurais pu. Donc, ils sont venus me trouver, et là... ça a pris 5 ans de bataille. C'est tous les 2 ans qu'interviennent les classements pour la France. Et la première année, je suis tombé avec Emmanuel Macron qui a décidé que c'était l'aïeul martiniquaise. Parce qu'il fallait que les Antilles, etc. Il y a des circonstances. Puis la deuxième fois, je suis tombé sur la baguette. Parce que le chef de l'Élysée, qui est maintenant devenu un ambassadeur de la gastronomie dans le monde, et qui est un homme très bien, avait convaincu le président de la République, et c'est lui seul qui décide, en fonction de ses goûts, hein, il a décidé de classer la baguette. Alors, mes parents étant meuniers, nous possédions beaucoup de boulangeries, je crois que même ma mère possédait toutes les pâtisseries de Paris, parce qu'il faut pouvoir livrer, donc on est un peu comme les brasseurs, on achète ceux qui nous achètent le produit. Voilà. Oui. Donc j'ai été élevé dans la boulange toute mon enfance, je la connais par cœur et je suis l'ami intime des Poilanes et Apollonia, l'héritière de Lionel, s'appelle comme ça parce que ma fille s'appelle Apolline, donc c'est pour dire que quand même je suis lié à la boulangerie.
Oh, tant que vous ne nous parlez pas d'hélicoptère, tout va bien.
Oui, je connais le drame et les sources de ce drame. Donc, Lionel était un immense ami, donc voilà, et je lui rends hommage parce que c'est un fondateur. Oui. Et revenons à notre sujet, effectivement... On va se battre et je vais obtenir à la fin qu'effectivement le président reconnaisse. Et le geste d'or va y jouer un grand rôle. Car le geste d'or va, c'est pas moi tout seul qui fais une démarche, je ne vais pas voir quelqu'un. Je décide à partir du moment où nous décidons, parce que ce jeu est toujours un nous. Mais là, je suis tout seul, donc je dis je. Mais c'est toujours vraiment nous, c'est capital. Je milite énormément pour que les Français raccordent à nouveau le jeu avec le nous. C'est une bagarre de tous les instants hein, dans ma vie.
C'est une chaîne.
Oui, c'est
une chaîne.
Oui,
ça reste.
Et donc, je fais concourir des dizaines de chantiers dans toute la France, découvreurs. Je montre tout simplement, et je le fais savoir au président, en plus l'Élysée, on a refait la couverture, il n'y a pas longtemps, un été. Donc, et je montre ainsi, et je fais savoir, et à tous les ministères, et le geste d'or a besoin justement de cette communication tous azimuts. C'est pour ça qu'on a une direction de la communication avec notre ami Thierry Croiset qui s'en occupe pour la grande presse, pour que nos métiers ne soient pas confinés dans les syndicats, dans les chambres de métiers, mais qu'ils soient dans le grand... dans le public qui les demande, qu'il montre à la France, à la Suisse, au monde entier, que la main de l'homme et de la femme sont toujours là pour œuvrer. Et donc, on va montrer publiquement, on va vraiment faire une campagne énorme de classement de toutes ces couvertures. On va nous-mêmes travailler à la création d'une sous-couverture, c'est capital avec Dupont de Nemours. Voilà, et qu'un de nos mécènes, parce que le geste d'or n'a pas de subvention d'État, les refuse. Pour être libre. Et donc, c'est simplement le mécénat de compétences et les cotisations d'entreprise. Mais on a plusieurs centaines de mécénats de compétences, et on peut en avoir plus, hein, parce qu'il faut vérifier les 19 métiers dans toute la France. Et maintenant, on est installé aussi au Canada, on est installé à Singapour, etc. Je m'occupe de sauver les maisons de Kyoto. On a un conseiller au Bhoutan, on est au Bhoutan aussi, on est au Costa Rica. Bon, voilà, c'est comme ça. Et parce que c'est des pays très intéressants sur le plan de la nature, de la relation à la nature. Et puis même le GIEC nous a rejoints parce que je défends beaucoup l'écoplanète. Je défends la réharmonisation de l'homme et de la nature. Et je milite pour... peut-être je ferai de la politique un de ces quatre. J'en fais d'une certaine façon, comme chacun d'entre nous. Mais je veux dire, je voudrais rendre la France aux biorégions, c'est-à-dire réaccorder, et ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais je suis en train de le faire, pour réaccorder les agglomérations avec leurs bassins naturels, oui. Pour que nature et vie quotidienne soient à nouveau approvisionnantes l'une pour l'autre.
Mais je suis confiant, je sais qu'on aura le fin mot de l'histoire sur les couvreurs. Hein.
Et donc, les couvreurs... vont m'apporter à moi quelque chose. Si vous veniez dans mes bureaux, vous verriez une rose en cuivre ici, vous verriez mes initiales qui sont en métal gravé, enfin PPA, parce qu'on m'appelle PPA à cause de PPDA, mais enfin, disons oui, qu'il n'y a pas de point commun entre les deux. Hein. Je pense que je suis un honnête homme, j'espère, en tous les cas. Je ne dis rien de l'autre, hein, mais je veux dire par là que...
On se comprend.
Vous n'avez pas le même avocat, quoi.
D'accord. Non, mes avocats, ils défendent les autres et pas moi. Donc, effectivement, la couverture va m'apporter quelque chose. Il faut que vous sachiez, avant que l'émission ne se termine, que chez les Compagnons, on a deux noms. Quand on est pays d'en bas, comme moi, parce que le tailleur de pierre, je suis un pays. Ceux d'en haut et les couvreurs, les charpentiers, sont des coteries. Pas chez nous, dans l'Union Compagnonique, mais dans la Sourouillère, la Fédération Compagnonique, etc. Et puis, ils sont en haut, parce qu'ils sont là-haut. Ils ont leurs ateliers là-haut, ils coupent leurs zincs là-haut, ils coupent leurs ardoises là-haut, puis ils regardent la ville d'en haut. Ah, eh bien, voilà que je me vois. Et je me souviens quand j'avais fait avec TF1, parce que j'avais une amie qui est d'ailleurs la femme de mon charmant astrophysicien, voilà. Et sa femme m'a permis d'avoir... Il fallait absolument que j'aie le grand public, donc j'ai eu le 20h. Et voilà, il fallait. Et je suis remonté sur les toits du Grand Palais à ce moment-là, et donc ils sont montés, les équipes sont montées, et on a fait un 20h. Et ça, c'était génial. On a travaillé comme des fous, et puis, grâce aux couvreurs, et grâce à la défense, et c'est ça l'aventure, eh bien, j'ai vu mon cher Paris, j'ai quand même écrit le dictionnaire historique de la rue de Paris avec Jacques Hilleret, est tellement dit sur Paris, puis je suis né à Paris, voilà, Paris 12e, à l'hôpital des Diaconesses, dont d'ailleurs une de mes filles anime les salles d'accouchement, et puis une autre a fait ses études, enfin peu importe. Oui. Mais je suis très lié aux Diaconesses, et de fait, grâce aux couvreurs et grâce à cette bataille, j'ai vu ma ville d'en haut. Je n'ai cessé de monter sur les toits, je continue à monter sur les toits, et je suis devenu l'ami, mais et être aimé de ces gens-là qui regardent tous les autres métiers d'en haut, qui ne les considèrent pas, ils ont compris qu'ils avaient un frère d'en bas. Moi, je suis le frère d'en bas. Et vous pouvez pas savoir, mes amis, j'ai appris à appareiller les voûtes ogivales, enfin les voûtes gothiques, comme on dit faussement, mais c'est les voûtes ogivales. Mais je veux dire, donc on monte, nous, les tailleurs de pierre, on monte, mais on ne fait que monter, on monte d'en bas, toujours pareil. Et alors que eux, ils nous couvrent d'en haut. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'y ai gagné des amis, mais absolument prodigieux. En plus, comme ils forment beaucoup des jeunes apprentis et qu'il y a une appétence pour le métier de couvreur chez les jeunes, le lycée Perret est très bon pour ça et d'autres, enfin... Et en ce moment, il y a un retour de la main, je dois vous dire, dans la jeunesse. On parle beaucoup de quelques-uns qui se perdent et parce qu'ils n'ont pas été élevés, puis parce que les circonstances, mais il y a une jeunesse extraordinaire et globale qui aime et des gens qui redeviennent jeunes à 40 ans, comme on a à la bonne graine, en retrouvant le goût de la main, et beaucoup veulent être ébénistes. Alors, bien sûr, j'ai plus de gens qui veulent être ébénistes qu'être maçons. Or, le plus grand métier chez nous, c'est au pied du mur qu'on connaît le maçon. Ma mère me disait toujours ça. Je retape la source. Quand je parle de ma mère, je tape tout le temps. Mais je veux dire, effectivement, la couverture, ça y est. Et alors, aujourd'hui, et merci de me poser cette question, je repars avec l'UNESCO parce que les coopératives, et j'y tiens beaucoup, m'ont demandé de faire classer et on fait ensemble. Enfin, j'aurais proposé et puis ils ont accepté. Et puis voilà, je vais essayer de faire classer désormais non plus simplement un métier et d'autres métiers, mais je repars pour 2 ans, 4 ans, 6 ans, si Dieu me prête vie, pour faire classer le processus des coopératives, parce que la coopérative, c'est la coopération, c'est la meilleure des associations. Et aujourd'hui, il y en a des centaines de milliers en France qu'on ne connaît pas. On a plus de 225 000.
Mais il y a un statut particulier, société coopérative ouvrière de production.
Voilà, les SCOP. Et c'est moi qui défends les SCOP. Des combats, j'en... Mais c'est pas des...
Les salariés de Brandt auraient bien voulu qu'on fonctionne en SCOP survivre.
Mais oui, et là, je pourrais dire beaucoup de choses un jour des tribunaux de commerce.
Oui,
je savais bien, oui, Jérémy, non, ça ne convenait pas pour passer.
Ça va pas. Ça
on a fait une heure et demie là, c'est fini.
Non, il nous reste encore 8 minutes. Mais...
8 minutes, l'infini.
Mais voilà. Effectivement.
Mais alors, tous qui nous écoutez, venez au Geste d'Or, venez passer les auditions. C'est gratuit. J'ai voulu que ce concours soit gratuit. Et ça, c'est le jeu, parce que je l'ai maintenu envers et contre tout. Et c'est aujourd'hui un label France, et ça devient même un label Europe. Et avoir un label du Geste d'Or que vous acquérez par votre qualité, vous remplissez bien sûr une acte de candidature, vous osez passer devant nos grands jurys. Ça, il faut le faire, parce qu'il faut, faut l'oser. Mais en direct plutôt qu'en visio, on fait des auditions aussi en province, on va tout vérifier en province. Enfin, il y a pour nous la provincia, de toute façon, Rome est passée d'abord par la provincia avant d'arriver à Lutèce, bon, etc.
Donc, alors, vous allez voir que quelle que soit l'aventure dans laquelle vous avez envie de vous lancer, les domaines du geste d'or sont larges. Dans la vie sociale, il y a l'architecture et l'urbanisme, l'hospitalité, le luxe, la mobilité, l'environnement de travail et qualification des usages, la santé, la sécurité, les solidarités. Pour les ressources, l'eau sous toutes ses formes, vous avez parlé tout à l'heure des quatre éléments et l'histoire. Alors, l'agro-silvopastoralisme, j'ai découvert du coup ce soir, merci Pascal.
Oui, c'est notre ami Daguin qui a créé ça pour nous et qui est grand cuisinier, hérité de son père qui était patron de l'hôtellerie, et il a créé cette jonction tellement juste entre l'agriculture, la forêt et l'élevage.
L'air intérieur et extérieur climat, l'énergie, le recyclage et le réemploi, l'espace et dans les sciences, alors ça pourrait être infini, le métier et les arts, l'image et l'imagerie, l'intelligence artificielle et jumeaux numériques, recherche et application, formation, transmission, plus tout ce que vous ferez demain.
Donc la Fédération de la chimie rentre chez nous parce qu'il faut sauver la chimie française qui est en déshérence. Nous sommes les inventeurs de la chimie avec Lavoisier et Berthelot et nous créons en permanence des accords avec les uns et les autres. Nous avons un service juridique qui va s'appeler le droit d'or. Nous nous occupons également d'éviter les sorties sèches de prison, de réintégrer les sortants de prison, et aussi nous occupons des jeunes de la HAS. Autrefois, c'était la DAS quand j'adoptais des enfants.
Oui, l'aide sociale à l'enfance.
Voilà. Et en réalité, je vais vous dire, mes amis, nous sommes un gouvernement des hommes de... Les hommes de bonne volonté, Jules Romain, notre siège à Paris principal est au Père-Lachaise, et sous mes fenêtres, il y a Jules Romain qui a écrit Les hommes de bonne volonté. Bah, c'est ça que nous sommes. Avec le Christ est vivant, ça fait une bonne affaire, non ?
Aimez-vous les uns les autres ? Non, on a un beau mode d'emploi à suivre.
Et c'est très juste, un mode d'emploi. Eh bien, c'est un mode d'emploi qui, chez nous, devient une raison de servir.
Bon, merci de nous l'avoir rappelé, cher Pascal. C'est exactement... un ADN à se greffer.
Je vais être prosaïque, vous êtes encore sur le Libre Journal des Artisans. Avec Pascal Païen Appenzeller. Et vous pouvez retrouver Le Geste d'Or, ce site internet, c'est legestedor.com.
Exactement.
On aura besoin volontiers d'un artisan ébéniste pour réparer le studio qui a été malmené par Pascal, parce que voilà. La multitude des coups qui a été donné. Mais c'est un plaisir d'avoir reçu ses coups, sa verve, son esprit et ses libertés.
Ah, il nous reste encore 5 minutes.
Oui, absolument. Non, mais pour parler des projets, parce que...
Pour parler des projets, oui.
Il y a un mot sur la
UNESCO,
politique.
Le projet UNESCO.
Alors, il y a aujourd'hui des projets tous les jours. Mes collaborateurs, quand ils arrivent le lundi, ce qui sera le cas, puisque nous enregistrons un dimanche en fin d'après-midi, se demandent ce qui les attend. Parce que, voilà, chaque jour est un secret de vie, et je voulais dire tout à l'heure ce secret. Dans les choses nouvelles, il y en a plein, bien sûr, la direction juridique, là, c'est très important, parce que nous avons réuni chez nous direction juridique, médiation de tout type, et bien entendu, le droit. Et puis maintenant, j'y ajoute les magistrats. Or, vous le savez tous, les magistrats et les avocats ne s'entendent pas forcément.
Non.
Eh bien, de même que les ingénieurs ne s'entendaient pas forcément avec les architectes. Et que la société ne s'entend pas forcément avec ceux qui sont passés par la case prison. Eh bien, le geste d'or, c'est la réconciliation. Je termine par un hommage à un homme dont j'ai été le conseiller, l'ami intime, le père Joseph Wrzesinski. Je suis à ATD Quart-Monde. On voulait faire de moi, quand il est mort, le Saint-Jean. Moi, je ne suis pas un Saint-Jean. Hein, je ne suis pas le disciple bien-aimé. Mais le père Joseph m'a appris ceci. C'était le Saint-Vincent de Paul de notre époque. Enfin, on a créé le 17 octobre, la journée, comme vous le savez, mondiale, d'hommage à la pauvreté, etc. Il disait, et je suis resté avec ça, Pascal... Les pauvres et les riches ont la même responsabilité. Ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes responsabilités. Nous sommes co-responsables. Et le geste d'or est une coopérative de responsabilité. Et j'espère que ce temps qu'on a passé ensemble, et merci pour cet accueil, vous a donné ce mot qui a une traduction du grec, enthousiasme. Enthousiasme veut dire, n'est-ce pas, enthousiasmos, ça veut dire ivresse de Dieu. Eh bien, nous avons cette ivresse de Dieu tous les jours. Et secret de vie, Je n'ajoute pas un jour à l'autre, chaque jour et toute une vie. Quand vous lisez la première page d'une tragédie de Corneille de Racine, vous voyez une journée en 5 actes. Eh bien, il se trouve que grâce à vous, ça sera une journée en 1000 actes. Merci.
Je ne sais quoi répondre.
Profitons.
Profitons.
Profitons. Profitons de ce mode d'emploi qui nous est donné.
Profitons parce que...
Merci Pascal pour ces rappels.
Merci. Vous avez résumé toute une vie. Vous
oui.
avez résumé toute une approche, toute une philosophie de vie. Vous concrétisez avec Geste d'or.
Ah oui.
La notion d'artisan, la notion
oui,
de
je
bien,
suis
de
un artisan
de
devant vous.
Oui, oui, c'est ça. De bien, de beau et de vrai, et de surtout de la transmission. Donc en fait, on a fait. Vous avez été l'exégète. Vous êtes l'exégète du Libre Journal des Artisans.
Eh bien, je veux bien ça parce que j'adore l'exégèse.
On a deux minutes.
Et j'adore ça. Et nous avons commencé en réfléchissant sur profession et métier.
Oui.
Eh bien. Quand je regarde ma vie qui tous les jours me fait inventer. Là, aujourd'hui où nous enregistrons, j'étais avec la veuve d'un très grand artiste. J'ai enregistré il y a des années La Voix. J'ai écrit un livre qui était resté parce qu'il est mort prématurément, une maladie de dégénérescence. Et puis voilà qu'elle s'est réveillée et que maintenant elle veut mettre en valeur l'œuvre de son mari dont elle a hérité. Et puis elle a trouvé les cassettes enregistrées et ce que j'avais écrit. Et puis voilà, je lui ai remis aujourd'hui l'édition, qui est une édition Geste d'or, car nous avons des éditions consacrées à Alexandre Berdal. Et un jour, si vous allez au cimetière Montparnasse, vous verrez. Et je pense que c'est une très belle conclusion. Merci de me l'avoir permise. Eh bien, il est à côté de Serge Gainsbourg, que j'ai très très bien connu par ailleurs, parce que j'ai aussi toute une carrière dans la musique et la chanson, enfin avec Aznavour et autres, mais c'est un autre sujet. Et il est à côté, et sur sa tombe, il y a une sculpture de lui, qui a été fondue par Candido Reich, qui est bronzier, ciseleur, patineur, et qui est un grand poisson. Et ce grand poisson, il est immense. Vous irez voir sa tombe, il est près du rond-point, pas loin des quatre sergents de La Rochelle, pas loin de la tombe de Rude, voilà, c'est-à-dire la Marseillaise de l'Arc de Triomphe, etc. Et il y a ce grand poisson, et le grand poisson, c'est l'ictus du Christ.
Oui. N'est-ce pas ?
Et voilà, eh bien, tout à l'heure, elle était là, et grâce à ce livre, grâce à son réveil à elle, qui a continué sa vie et qui est une grande chercheuse dans la génétique, eh bien, j'ai eu la preuve, une fois de plus, de cette continuité, de ce long fleuve d'Héraclite qui passe par toutes les falaises de la stratigraphie et qui apporte à la mer son eau pour que la mer continue de nourrir notre humanité.
Parfait.
Merci, merci Pascal.
Merci beaucoup. Vous nous avez fait voyager, transporter.
Et vous m'avez fait voyager. Parce que
pour ce Libre Journal.
J'avais réfléchi à cette vocation dans l'artisanat qui est la mienne, n'est-ce pas ? Voilà, j'ai plusieurs types d'artisanat dans ma vie. Voilà, mais vous m'avez permis d'entrelacer tout ça, de vos réflexions. Et c'est ça la broderie. C'est une merveilleuse combinaison. Marie-Antoinette faisait rebroder des tissus extrêmement complexes. Ça a été la plus grande cliente qui ait jamais existé pour les métiers. Hein. Deuxième initiateur est Napoléon. Je n'ai pas une grande passion pour Napoléon, mais sans lui, nos métiers ne seraient pas ce qu'ils sont. Je rappelle une dernière chose.
C'est que le mot de la fin, là, parce qu'on a dépassé le temps.
Dernière chose. Le plus grand nombre de guillotinés, c'est des artisans.
C'est ça.
Ce n'est pas les nobles. C'est pas les prêtres, ils ont été. C'est pas les bourgeois, c'est les gens de métier parce qu'ils étaient au chômage. Et étant au chômage, ils étaient considérés comme espions.
Voilà. C'est le mot de la fin.
Oui.
Triste, mais...
Mais je voulais
voilà.
le dire.
Mais heureusement que nous sommes nourris de l'espérance.
Oui.
Merci beaucoup. Et ben, on dit à bientôt à nos auditeurs. Et merci Pascal Payen-Penzeller pour cette superbe émission.
Merci. Merci.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Artisans, dirigé par Benoît Aglon et par Benoît Duchâtelet. Émission préenregistrée le 14 décembre 2025, diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 9 janvier 2026 de 19h30 à 21h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.